Marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire.
Ce qui est vrai, c'est qu'à l'époque, aussi bien nous que les gens avec qui on travaillait et les gens qu'on formait, on avait tous de grandes espérances sur ce qui allait arriver en Angola. Mais en même temps, on voyait bien les dangers, on voyait bien qu'il y avait des menaces sur l'avenir et on n'était pas sûr que ce dont on rêvait pour l'Angola allait se produire. Et puis, il semble bien qu'on ait eu raison, quoi, qu'on ait été lucide.
La voix du journaliste et grand reporter de télévision, Marcel Trillat. Il évoque son expérience angolaise en 1975, l'année où s'achève enfin la plus longue des guerres d'indépendance en Afrique. 14 ans de conflit avant que le Portugal lâche enfin sa colonie. Marcel Trillat est l'un des rares journalistes étrangers à couvrir l'Angola, dont le nom et le visage deviendront bientôt familiers des téléspectateurs français. Trillat est aussi un homme engagé, longtemps militant pour le Parti communiste et la CGT, et un réalisateur de documentaires qui n'a eu de cesse de donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas. La classe ouvrière, essentiellement. Que ce soit les dockers de Saint-Nazaire, en grève, en 1967, ceux qu'il appellera les étranges étrangers, reprenant les mots de Jacques Prévert. Il les filme dans les foyers de travailleurs immigrés de la banlieue parisienne, en 1970. Ou encore, le peuple angolais qu'il rencontre quelques mois avant l'indépendance du pays, en novembre 1975. Marcel Trillat est un grand témoin de l'histoire angolaise. Il raconte de l'intérieur une guerre coloniale, mais aussi une guerre civile, emblématique de la guerre froide, un épisode méconnu du public francophone. Les années Angola, de Marcel Trillat, c'est un documentaire inédit de la Marche du Monde, produit par Valérie Nivelon, signé Maxime Grandbert et réalisé par Michael Goncalves, au son des archives de l'INA et de Cinéarchives. Un récit croisé aux analyses de la journaliste Augusta Conquiglia, de l'historien Tanguy Perron et à la bande-son des musiques angolaises des années 70. Bonga, la voix de l'Angola indépendante, chante Balou Mamkeno. Lorsque la guerre d'indépendance éclate en Angola en février 1961, Marcel Trillat a tout juste 20 ans. Il est loin de l'Angola, mais il milite déjà au Parti communiste français et il affirme son soutien à l'indépendance de l'Algérie. 14 ans plus tard, Trillat est envoyé dans l'Angola en guerre avec ses camarades, le chef opérateur Bruno Muel et l'ingénieur du son Antoine Bonfanti, par Unicité, la société de production du Parti communiste français. La mission de Marcel, Bruno et Antoine, c'est de former les futurs professionnels de la télévision publique angolaise. L'Angola est situé au sud de l'Afrique. C'est un territoire ouvert sur l'Atlantique, frontalier du Congo-Kinshasa au nord et de la Namibie au sud. Il faut imaginer les trois Français sillonnant le pays, faisant tourner leurs caméras, filmant, en prenant fait et cause pour le MPLA, le Mouvement Populaire pour la Libération de l'Angola. D'abord en 1975, au moment de l'indépendance du pays, puis en revenant 2 ans plus tard, en mai 1977, lors de la tentative de coup d'État. Et ses archives cinématographiques ont guidé Maxime Grandbert dans ses investigations.
Et en 2011, devant la caméra du réalisateur brésilien João Guerra Marques, Marcel Trillat nous explique ce que la lutte pour l'indépendance de l'Angola représente à ses yeux.
Il y avait une relation très fraternelle, si vous voulez, entre le Parti communiste et les mouvements de libération, comme on disait. Dans tous les pays où il y avait des guerres coloniales, le Parti communiste soutenait les mouvements de libération. Et il y avait des affinités idéologiques, quoi. Construire le socialisme, on ne savait pas trop ce que ça allait devenir, hein, mais... Il y avait une fraternité, quoi. Il y avait un enthousiasme pour ces gens qu'on admirait beaucoup, qui dans des situations très 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 difficiles étaient capables de se battre contre des armées très violentes comme l'armée portugaise, par exemple, ou le FLN algérien contre l'armée française. Donc voilà, nous on soutenait à fond tous ces mouvements-là, quoi. Et du coup, on était prêt à leur donner un coup de main, comme ils allaient prendre en main le destin de leur pays. Bon, ben, ils avaient besoin d'aide. La petite aide qu'on pouvait apporter en les aidant à former des gens dans nos professions, ben, on le faisait avec grand plaisir, quoi. Hein. Et pour nous tous, il y avait une filiation, si vous voulez, symbolique entre tous ces mouvements et ce que notre pays avait connu, c'est-à-dire la résistance. Pour nous, c'est en continuité avec les luttes de la résistance française contre l'occupant hitlérien.
Pour Marcel, ça l'intéresse pour plusieurs choses. C'est à la fois, à mon avis, le goût de l'aventure, sans être un baroudeur, sans jouer au baroudeur, il a néanmoins le goût de l'aventure et des paysages et des voyages.
Tanguy Perron. Historien.
Il est intéressé par ce qui se passe en Afrique. Ça succède à une culture anticoloniale forte. Son engagement date de la guerre d'Algérie. Il dénonce non seulement la torture, mais aussi il est pour l'indépendance d'Algérie. Et assez classiquement, cette génération-là va passer de l'anticolonialisme à l'anti-impérialisme, qui est vraiment très marquant dans les années 60 et 70 au niveau idéologique. Donc ce parcours est assez logique. Après, de sa part, il y a peut-être aussi ce que j'avais appelé un tropisme africain qui remonte en 69-70, au moment où il tourne Étranger, hein, un documentaire tourné en Seine-Saint-Denis sur les conditions de vie et de logement des travailleurs immigrés. Et là, quand il fait ce reportage qui est marquant et qui va marquer, il découvre les conditions de logement de travailleurs maliens, mais aussi des travailleurs subsahariens, il y a des Mauritaniens, il y a des Sénégalais, et il est percuté, si l'on peut dire, par ce qui va être très commenté et célèbre, ce qu'on appelle le drame d'Aubervilliers, où dans la nuit de la Saint-Sylvestre, comme disent les journalistes, le 31 décembre 69, 5 travailleurs noirs périssent asphyxiés dans un pavillon sordide d'Aubervilliers.
Quels étaient les sujets de prédilection de Marcel Tria dans son travail de journaliste, mais également de documentariste? Quelles étaient les personnes qu'il avait l'habitude de filmer?
Il aime bien la classe ouvrière et le peuple, en fait, donc ça se sent. Il est très doué comme intervieweur. Il ne va pas s'intéresser aux porte-paroles, mais aussi aux personnes plus humbles qui sont devant son micro, devant sa caméra. C'était un grand admirateur de Prévert. Il lisait beaucoup les vers de Prévert. Donc voilà, une espèce de cartographie où il va vers les ouvriers de Saint-Nazaire, vers les travailleurs mauritaniens et sénégalais d'Aubervilliers. Il multiplie des figures du peuple qu'il n'encense pas, mais qu'il respecte et qu'il estime, et dont il recueille avec beaucoup d'attention et de douceur la parole.
La guerre d'indépendance éclate en Angola au moment où les pays d'Afrique francophone hissent fièrement les drapeaux de leur jeune nation, tandis que les colonies françaises d'Afrique de l'Ouest se libèrent, tandis que les Français ont compris qu'ils vont perdre leur guerre d'Algérie, les pays d'Afrique lusophone restent maintenus sous le joug colonial par la dictature de Salazar. Pour le Portugal, il est impensable de céder l'Angola, le joyau de son empire. Invité de France Culture en novembre 1975, Marcel Tria expose les richesses tant convoitées de l'Angola et nous présente le MPLA, le mouvement proche des idéaux communistes, pour lequel il ne cache pas sa sympathie.
Je pense qu'il y a en Angola un authentique mouvement de libération, qui est le MPLA, qui est un mouvement national, qui a des objectifs qui sont la démocratie, l'indépendance totale, le pouvoir populaire, et qui a fait appel à la solidarité internationale. Cette solidarité est venue des pays socialistes, de l'Union soviétique, du Danemark, de la Suède. Ce qu'il faut d'abord dire, c'est que l'Angola est un pays immensément riche. On pourrait dire que la superficie de l'Angola, ça correspondrait à la France, plus la Grande-Bretagne, plus l'Italie, plus la République fédérale allemande, à peu près. C'est 14 fois le Portugal. Et vous disiez que l'Angola était peut-être plus riche que le Portugal. À certains égards, c'est vrai, puisque des études ont été faites par satellite, en particulier par les Américains, qui s'intéressent beaucoup à ces choses-là. Et ils ont découvert que les ressources minérales de l'Angola étaient pratiquement impossibles à évaluer, tellement elles sont énormes. Le sol de certaines régions est gorgé de pétrole. Il y a du diamant, il y a du fer, il y a du cuivre. Il y a de l'uranium, on l'a récemment découvert, pratiquement tous les minéraux importants, si vous voulez. Et par ailleurs, c'est un pays très riche sur le plan agricole.
La révolte est dans le cœur des Angolais, comme le chante Teta Lando avec Mompionzo Ame. Et la rivalité est exacerbée entre le MPLA et deux autres forces indépendantistes, le FNLA et l'UNITA. Une véritable partie de billard à trois bandes se joue pour prendre le contrôle du pays. Et chacun installe son gouvernement en exil dans les pays voisins. L'enjeu pour les alliés occidentaux du FNLA et de l'UNITA, les deux forces indépendantistes concurrentes du MPLA, c'est aussi de freiner la montée du communisme en Angola. La lutte interne entre les trois mouvements prend alors des allures de conflit, de guerre froide.
Au nord, le FNLA d'Olden Roberto, l'homme de Mobutu et des Américains. Au sud, l'UNITA de Jonas Savimbi, l'homme des intérêts français, anglais et allemands. Pour l'impérialisme, l'enjeu de cette seconde guerre d'Angola est clair. Il faut empêcher à tout prix le peuple angolais de prendre possession de ses fabuleuses richesses pétrolières et minérales. Il faut empêcher à tout prix ce pays qui occupe une position stratégique déterminante entre le Zaïre de Mobutu et l'Afrique du Sud de l'apartheid de choisir la voie du socialisme. À 150 km au nord de Luanda, au cœur de la première région militaire du MPLA. C'est dans ses forêts, dans ses plantations de café, que la lutte armée organisée a commencé il y a près de 15 ans. Pendant de longues années, les premiers combattants du MPLA se sont battus ici, avec les moyens du bord, coupés du monde. Leur seul lien avec l'extérieur, les colonnes d'approvisionnement venues du Congo-Brazzaville, devaient en effet traverser le territoire du Zaïre, où elles étaient décimées par les soldats de Mobutu et par leurs complices du FNLA. Je voudrais savoir maintenant ce que vous pensez de l'avenir de l'Angola. Comment les choses vont se dérouler, à votre avis?
On pense que la lutte contre le colonialisme est finie, mais la lutte contre l'impérialisme continue.
Mais si l'impérialisme vous attaque avec toutes ses forces, est-ce que le peuple angolais n'est pas fatigué? Est-ce qu'il pourra continuer à lutter?
Oui, il continuera toujours, même si ça dure 100 ans. Le peuple est devenu dur. Il peut continuer.
L'Angola, c'est 14 ans de guerre et de lutte contre l'occupant portugais. 50 000 guerriers tombés au combat, sans résultat. Mais en avril 1974, le conflit entre les trois principaux mouvements indépendantistes prend un tour inattendu avec la chute de la dictature au Portugal. Marcel Tria en fait le récit dans son documentaire « Guerre du peuple en Angola ».
Lisbonne, 25 avril 1974. En quelques heures, les officiers et les soldats du mouvement des forces armées mettent fin à un demi-siècle de dictature fasciste. C'est d'abord à lui-même et à sa propre résistance que le peuple portugais doit cette libération tant attendue. C'est aussi à la lutte héroïque de trois peuples d'Afrique, ceux de Guinée-Bissau, du Mozambique et d'Angola, où l'armée portugaise refusait de s'enliser plus longtemps dans une guerre perdue. Cette révolution qu'elles avaient contribué à déclencher, les anciennes colonies allaient à leur tour en bénéficier.
Dans l'extrait que nous venons d'entendre, Marcel Tria nous dit que la révolution des œillets va bénéficier aux colonies, et notamment en Angola. Augusta Coniglia, vous êtes journaliste, spécialiste de l'Angola. Vous étiez au Portugal le 25 avril 1974. Pouvez-vous nous décrire l'ambiance dans les rues de Lisbonne?
C'était une ambiance exceptionnelle. Je pense que le Portugal lui-même n'a jamais vécu un moment aussi... aussi important dans son histoire récente. Et évidemment, la question de la colonisation surgissait par-ci, par-là, du fait notamment que c'est l'armée qui a pris l'initiative et c'est l'armée qui était engagée dans la guerre de répression, de guerre de libération en Afrique, donc il y avait un lien direct, mais on ne savait pas très bien comment cela allait se présenter, donc il y avait des incertitudes, bien sûr. Et j'ai jamais eu autant de monde se réunir dans une petite ville, finalement, comme Lisbonne, qui, évidemment, a vécu ces trois jours d'euphorie à partir du 25 jusqu'au 1er mai, qui a consacré un peu cette nouvelle situation. Donc les fascismes étaient tombés grâce à l'intervention de l'armée portugaise qui a rejeté en fait son rôle de force de répression des forces populaires qui se battaient en Afrique pour leur libération. Donc tous ces éléments était plus ou moins clair aux yeux de ce public immense, mais on n'avait pas des certitudes. Personne n'avait dit exactement ce qui allait se passer après.
Après le 25 avril 1974, lorsque la guerre coloniale a cessé, chacun des trois mouvements est sorti de ses zones d'implantation pour installer des délégations à travers tout le pays. Au cours des affrontements qui se sont multipliés depuis mars dernier, ces bâtiments furent l'enjeu de batailles acharnées, comme ici à Luanda, où les soldats du MPLA, aidés par le peuple, viennent de chasser les occupants d'une délégation du FNLA. Les habitants du quartier témoignent.
Il y avait 6 cadavres abandonnés dans la rue ce matin. Il faut que le gouvernement prenne des mesures, sinon le peuple va se révolter. Nous ne pouvons pas continuer à être sacrifiés. Le pays est terrorisé. Nous sommes terrorisés. Nous demandons, s'il vous plaît, la protection, au moins pour les femmes, pour les enfants, pour les vieux. Il y a ici un type qui cherche un cousin qui a disparu. Qui sait s'il n'est pas enterré ici? Cependant, ce sont ces gens-là qui prétendent venir sauver le peuple. Quel peuple viennent-ils sauver, mon Dieu? Qui peut nous aider à résoudre ce problème?
Ne pensez-vous pas que le MPLA peut vous aider?
Nous savons que le MPLA, c'est le peuple. Et s'il n'y avait pas le MPLA, que deviendrait le peuple? Qu'adviendrait-il de nous?
Vive MPLA! Vive!
Ce contexte bouillonnant que Marcel Tria, Bruno Muel et Antoine Bonfanti arrivent en Angola au printemps 1975 pour former les futurs professionnels de la télévision publique angolaise et pour réaliser « Guerre du peuple en Angola », un documentaire dont le parti pris est très clairement en faveur du MPLA. Tanguy Perron, pouvez-vous nous dire dans quel contexte cinématographique s'inscrit ce film ?
Il y a un mouvement plus général qu'on peut décrire comme des mouvements, comme une décennie anti-impérialiste. Voilà, lié aux années entre 65 et 68 et puis qui perdure. Et effectivement, les cinéastes militants ne restent pas cantonnés à la France. Il y a une internationalisation des luttes et une internationalisation des images également. Du coup, c'est assez courant que des cinéastes vont d'un continent à l'autre, que les films vont d'un continent à l'autre, que les plans glissent d'un film à l'autre. Bruno Muel, qui a participé à ces films-là, est grandement, est allé dès 65 en Bolivie, il était lui aussi marqué par la guerre d'Algérie, mais comme soldat. Marcel, c'est comme opposant en France. Donc, ils ont une culture vraiment internationaliste, anti-impérialiste, anti-colonialiste, qui est très grande à cette époque-là. Ce qui va beaucoup les marquer aussi, c'est le coup d'État de Pinochet au Chili en 73. Ça, vraiment, c'est une sorte de traumatisme pour beaucoup. Il y a également dans la foulée, et c'est lié à l'Angola, la révolution au Portugal. Donc vraiment, le théâtre est révolutionnaire et à l'échelle du monde.
Le documentaire « Guerre du peuple en Angola » est réalisé collectivement à trois mains. Bruno Muel occupe le poste de chef opérateur, Antoine Bonfanti, celui d'ingénieur du son, et Marcel Tria de journaliste. Dans ce film, en quoi reconnaît-on le style Tria ?
La voix chaude de Marcel Tria, on la reconnaît tout de suite. Chaude, grave et belle, qui fait un élément vraiment important de sa qualité de journaliste. Donc le temps de prendre les questions, le temps de poser des questions, pardon, d'écouter les gens, de repérer, oui, d'enquêter, d'être là, d'être présent.
Et en 2011, devant la caméra du réalisateur brésilien João Guerra Marques, Marcel Tria et Bruno Muel reviennent sur leur travail de formateur.
Donc lorsqu'il y a eu le début de l'indépendance, on nous a demandé avec un troisième camarade, Antoine Bonfanti, qui est un grand preneur de son, un des plus grands preneurs de son français, un personnage extraordinaire.
Qui est décédé aujourd'hui.
Qui est mort, hélas. Oui. Donc on est partis tous les trois. L'idée était de former différentes catégories de cinéastes, journalistes. Alors donc, l'un était un caméraman, réalisateur, Bruno. Bonfanti était un ingénieur du son et moi j'étais journaliste. Journaliste un peu réalisateur aussi, on était jeunes hein, à l'époque.
Mais c'était un travail de formation sur le tas, pratique. Hein, on n'avait pas de cours théoriques sur le cinéma. On était là pour montrer comment on faisait, comment on travaillait.
Ouais. Hein,
donner par l'exemple de notre travail, leur apprendre dans la pratique à se servir d'une caméra, d'un nagra, d'un magnétophone et organiser un tournage, des questions, tout ça.
C'était des jeunes gens
cultivés
qui appartenaient à la classe privilégiée, on peut dire, la classe cultivée, mais anticolonialiste, dont certains étaient des
Portugais d'origine, en tout cas, même s'ils avaient pris la nationalité. Enfin, encore à l'époque, c'était pas
clair, mais disons qu'ils s'étaient ralliés
à la cause de l'Angola naissant et du MPLA.
Du MPLA, voilà.
Oui, voilà.
Et donc, on s'est retrouvés à Luanda, accueillis par des gens qui sortaient de prison.
Luandino Vieira.
Luandino Vieira, l'écrivain, il venait de faire 10 ans de prison. Il était sorti
au bagne, sur l'île, une des îles du Cap-Vert, oui.
Et il a été sorti de prison peut-être 2 mois avant, quoi.
Au début de l'indépendance. Il y avait aussi la figure d'Agostinho Neto, qu'on connaissait, qu'on admirait, qui avait une réputation d'être un dirigeant communiste moderne, ouvert.
Cultivé.
C'était quelqu'un
effectivement.
C'était quelqu'un d'important pour le pays et qui malheureusement est mort très peu de temps
l'indépendance.
L'indépendance.
Et alors quand on arrive, la situation est quand même très très bizarre puisque il y a 3 mouvements d'indépendance, de lutte anticoloniale, qui sont tous les 3 présents à Luanda. Mais on sent aussi que ça ne va pas être simple. Entre les 3 mouvements, on sent qu'ils ne sont pas du tout la main dans la main.
Ils étaient encore les 3 présents en ville. Et on entendait des coups de feu. Il y avait quand même des échanges de coups de feu.
Je
me souviens, une fois, on est parti sur un tournage. Et on est passé devant des immeubles où ils se tiraient dessus depuis l'étage de l'immeuble avec d'autres dans la rue.
Puis très vite, on a compris que la guerre continuait entre eux, quoi, surtout entre le MPLA et le FNLA.
MPLA, Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI. Au son de Chicolona du groupe Duo Missoso, nous continuons ce récit consacré aux années Angola de Marcel Tria. C'est une chanson qui raconte l'inquiétude des colons portugais devant l'arrivée du MPLA. Car dès janvier 1975 et la mise en place d'un gouvernement représentant les différentes tendances politiques du pays, le chaos s'installe dans l'ancienne colonie. Les Portugais se préparent à quitter leur cher Angola, qu'ils occupent depuis le XVIe siècle. Mais comme nous le raconte Marcel Tria, cette fuite provoque la colère des Angolais et le départ des colons entraîne également l'écroulement des structures administratives, économiques et sociales qu'ils dirigeaient.
La première fois qu'on y est allé, l'Angola, c'était formidable. Hein. On allait à la plage, il y avait des petits restos, on mangeait des crevettes, c'était très sympa, on buvait du vin et tout ça. Et puis, peu à peu, ça s'est mal passé avec les Portugais. Et les Portugais sont massivement partis. Ils sont partis, mais avec armes et bagages, quoi. Ouais. Et ils ont laissé... Alors, qui est responsable de ça, c'est difficile à dire. Hein. Je pense que, sans doute, il doit y avoir des torts des deux côtés. Les Portugais qui ne voulaient pas perdre leurs privilèges et que, voyant qu'ils allaient les perdre, bon, qui ont décidé de saboter un peu le pays. Et puis les nouveaux dirigeants qui étaient un peu trop rigides et qui n'ont pas su convaincre les Portugais de travailler avec eux. Alors qu'il y en a beaucoup qui étaient prêts à le faire. Des gens comme Luandino, mais il y en avait plein d'autres. Et donc, quand tous ces gens sont partis, l'économie s'est effondrée. Effondrée.
On a filmé une usine, oui, où toute la direction était partie, les ingénieurs... Et c'est les syndicalistes de l'usine qui essayaient tant bien que mal de la refaire démarrer. Quoi.
Guerre civile, sabotage économique, peu à peu la panique s'est emparée de la masse des Blancs d'Angola. Ils étaient environ 500 000. Ils ont exigé la mise en place d'un véritable pont aérien qui les emporte chaque jour par milliers vers Lisbonne. Parmi eux, de nombreux techniciens dont le concours aurait été précieux à l'Angola indépendante. Les travailleurs angolais, eux que le colonialisme a toujours empêché d'acquérir la moindre formation technique, les regardent partir, les poings serrés.
Je ne suis pas d'accord avec cette fuite. Je vais vous dire pourquoi. Il y a eu beaucoup de morts dans les Moussecs. Dites-moi combien de techniciens blancs ont été tués. Aucun. Où tombent les obus? Dans le centre de la ville? Non. C'est dans les Moussecs, sur les maisons des travailleurs, où meurent parfois des familles entières, c'est là qu'ils tombent. Celui qui cherche la vérité sur l'Angola et sur les réactionnaires, il faut qu'il aille dans les Moussecs, car c'est seulement dans la classe la plus exploitée qu'on trouve la vérité. Nous entendons et nous voyons tout. Nous pouvons dire toute la vérité. En ce qui concerne les techniciens, il faut tenir compte de ceci. Les techniciens, autrefois, avaient de grands privilèges ici en Angola. Et maintenant, ils voient que la situation va changer, que leurs privilèges vont finir. Alors ils disent, je retourne chez moi. Je ne veux plus rester ici parce que je suis dans l'insécurité. Quelle insécurité? Et nous? Qui nous assure la sécurité? Je crois que cette fuite des techniciens se fait avec la complicité des patrons pour entraîner le pays au chaos.
Et lors du tournage de Guerre du Peuple en Angola, Marcel Tria interviewe le leader du MPLA, Agostinho Neto. Neto souhaite mettre en place une politique inspirée du modèle soviétique, ce qui évidemment déplaît aux Occidentaux. Et dans un contexte marqué par les conflits de guerre froide, Neto évoque, sans les nommer, l'ingérence américaine et sud-africaine dans les affaires du pays.
Il y a une tentative de l'impérialisme pour néocoloniser le pays. Il y a donc... La tentative de détruire les forces progressistes représentées par le MPLA et de faire avancer des forces réactionnaires. Et même, il y a aussi des tentatives d'introduire ici dans le pays des forces étrangères.
Agostinho Neto est venu participer à une réunion des responsables du MPLA en plein cœur d'un Moussek. Il a suffi de quelques minutes pour que la nouvelle se répande et que le peuple vienne spontanément lui apporter son soutien.
Notre lutte pour l'indépendance de l'Angola continue. Nous ne sommes pas encore débarrassés du colonialisme, ni de l'impérialisme. Nous devons être particulièrement vigilants en ce moment. Nos ennemis utilisent l'arme du tribalisme et l'arme du racisme pour persécuter notre peuple. Tous les militants du MPLA et tout le peuple doivent être vigilants. Nous ne devons contribuer en aucune manière à ce que nous puissions nous-mêmes être accusés de racisme et de tribalisme.
Il y a eu effectivement un alignement des relations et des aides à chaque mouvement.
À Augusta Conililia, vous êtes journaliste, spécialiste de l'Angola.
Les mouvements, disons, les plus liés à l'Occident ont obtenu l'aide des Américains. C'était public, hein, c'était connu.
Donc, pour résumer la situation, le FNLA est aidé par les États-Unis et le Congo de Mobutu. Et de son côté, l'UNITA est soutenue par l'Afrique du Sud. Qui va intervenir sur le sol angolais pour empêcher la prise du pouvoir du MPLA ?
Avec l'aggravation de la situation militaire pendant la transition, donc déjà avec le gouvernement formé avec les Portugais en 1975, et puis la défaite de facto des mouvements qui étaient soutenus à la fois par Mobutu et par des forces disparates dans le sud du pays, donc l'UNITA, le FNLA pour les nommer, elles ont perdu le contrôle de la situation. Donc face à ce risque, l'Afrique du Sud est intervenue directement, ce qui n'était pas prévu. L'Afrique du Sud surveillait la situation, était à la frontière entre la Namibie et la Namibie était occupée par l'Afrique du Sud et c'est là où elle s'était positionnée pour suivre la situation. Mais la décision de pénétrer était prise probablement entre août et octobre 1975, donc peu avant l'indépendance. Et ça a surpris beaucoup de monde. Probablement pas les Américains qui devaient savoir, mais enfin, la réalité est que c'est ça qui a donné un caractère totalement inséré dans le contexte de la guerre froide, c'est que l'Afrique du Sud intervient. Et pour la stopper, le MPLA, qui était en position de force sur le plan intérieur, n'avait pas d'autre alternative que de demander de l'aide militaire. Et là, ce qu'elle a fait auprès de Yougoslavie, auprès de, même de l'Algérie, mais les conditions des deux pays ne leur permettaient pas d'engager des forces. Il y a eu quelques groupes de Mozambicains, même quelques Nigériens qui sont venus, mais enfin c'était vraiment plus symbolique qu'autre chose. Et en fait, c'est Cuba qui a accepté de jouer ce rôle. Et donc ça a internationalisé les conflits. Et on a mis l'accent beaucoup sur Cuba et pas assez sur l'Afrique du Sud. Puisque pendant longtemps, les Américains ont refusé de reconnaître l'existence de l'État angolais tant que le Cubain se retirait. Mais ce n'était pas en parallèle avec le retrait sud-africain définitif et total. Donc il y avait cette ambiguïté qui a maintenu une situation, disons, typique de guerre froide.
Les trois camarades, Marcel Tria, Bruno Muel et Antoine Bonfanti, quittent l'Angola à l'été 1975, alors que l'indépendance est programmée pour le 11 novembre de la même année. Le pays est toujours divisé entre les trois forces indépendantistes, mais la capitale, Luanda, est aux mains du MPLA, dirigé par Agostinho Neto, déclaré président de la République populaire d'Angola. Avec l'aide des Cubains, il réussit à neutraliser ses opposants et à prendre progressivement le contrôle de tout le pays. Mais le départ précipité des colons portugais perturbe profondément l'Angola. Les institutions ne sont plus en état de fonctionner et l'Angola sombre peu à peu dans le chaos total. Et comme nous le décrit Marcel Tria, le rêve d'un Angola progressiste s'éloigne peu à peu pour laisser place à un régime antidémocratique.
Disons que c'est comme souvent, hein, les premiers moments sont formidables et puis peu à peu, les choses rentrent dans le rang, quoi. Les gens sont obligés d'admettre un certain ordre qui se met en place et l'heure n'est plus à l'explosion, à l'enthousiasme, etc., quoi. On a bien senti ça très vite, très vite. Et moi, je crois me souvenir, j'y suis allé 3 fois et je voyais se mettre en place un régime qui... la 3e fois, c'était très net, qui ressemblait, qui avait pour modèle le système soviétique. Donc très vite, les soviétiques ont aidé, mais à leur manière, quoi. Il y avait des gens du Gosplan soviétique qui dirigeaient l'économie. Il y avait peu à peu aucune démocratie, quoi, aucune liberté de parole. Se mettaient en place des gens qui sortaient de 14 ans de guerre coloniale, qui avaient réglé les problèmes pendant 14 ans à coups de mitraillette. Et tout d'un coup, il fallait laisser tomber la mitraillette, convaincre, mettre en place un régime démocratique. Il y en a pour qui c'était très très compliqué, ça. Ils voulaient continuer à dire, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc on était un peu en porte-à-faux au bout d'un certain temps. Et je crois que c'est la 3e fois que j'y suis allé, il n'y avait plus rien à manger. Il n'y avait plus rien à bouffer. Il n'y avait plus rien qui marchait. Il n'y avait plus un ascenseur qui marchait dans les immeubles. C'était la catastrophe. Et tout de suite, on a vu les femmes des dirigeants de la nouvelle nomenclatura qui se mettaient en place, qui avaient des magasins réservés, et elles allaient avec les caddies acheter des choses qui n'existaient plus sur le marché. Mais qui était réservé à cette minorité dirigeante, ces nouveaux dirigeants, du whisky, de toutes sortes de nourriture, auxquelles le peuple n'avait plus du tout accès. Et bon, ben là, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est en train de mal tourner, quoi.
Dans l'année qui suit l'indépendance du pays, le MPLA, l'Agostinho Neto, gouverne avec le soutien de Cuba et du Bloc de l'Est. Et bien que l'adhésion populaire soit manifeste dans une large partie du pays, des dissensions apparaissent très vite en marge et au sein même du MPLA. Une frange radicale exige une révolution totale et prend parfois des accents racistes vis-à-vis des Blancs et des assimilados. Et c'est dans ce contexte tendu que Bruno Muel et Antoine Bonfanti reviennent en Angola pour poursuivre la formation des réalisateurs de la télévision publique. Marcel Tria arrive plus tard. Nous sommes en mai 1977.
Le second voyage était très différent parce que la télévision publique était en train de se mettre en place.
Ouais.
Je pense qu'il y a une grosse différence. Le premier était justement pris sur une envie de cinéma, de faire du cinéma documentaire. Et c'était des gens d'un niveau culturel plus élevé qu'après.
Ouais, ouais.
Après, on s'est retrouvé avec des gens qui apprenaient à la base à faire marcher une télévision.
Ouais.
Hein, à faire marcher une télévision de la façon la plus classique et la plus habituelle et la plus aux ordres du gouvernement. C'est là que nous, avec Antoine Bonfanti et un étudiant que nous formions, nous avons tourné ce petit film sur un gamin qui s'appelle La Luta Continua.
Ouais, très joli film.
C'est un film qu'on a fait ensemble comme film de fin d'études.
Les enfants de l'Angola ont connu 2 guerres. La guerre de libération contre les occupants portugais et, après le 25 avril, la guerre plus meurtrière entre les 3 mouvements, le MPLA d'une part, le FNLA et l'UNITA d'autre part. Les enfants des Mousseks, ces banlieues de la misère qui ceinturent Luanda, ont supporté la faim, les bombardements, les séparations. Beaucoup d'entre eux ont lutté comme pionniers, ou même comme combattants, dans les rangs du MPLA et contribué à sa victoire. Après l'indépendance, dans cette ville-là, au cœur des beaux quartiers de Luanda, le foyer 1er décembre accueille quelques-uns de ces enfants de la guerre, orphelins ou abandonnés. Aujourd'hui, Lops, Kitouche et Raoul mettent les habits militaires auxquels ils ont droit pour aller faire les courses. Cela leur permettra de passer en priorité dans les files d'attente.
Aluta Continua est peut-être des deux films peut-être le plus touchant.
Tanguy Perron, historien.
C'est beaucoup plus de films de Bruno Muel que de Marcel Trias. Quand j'avais retrouvé ce film-là aux archives départementales de la Seine-Saint-Denis, dans le fond de Ciné-Archives, j'avais tout de suite montré à Bruno Muel qui avait été touché. Il était un peu gêné par Guerre du Peuple en Angola, puisqu'il y a un côté un peu propagandiste et très pro-MPLA, mais qui n'est que le reflet de leur sentiment de l'époque, en fait, hein, et d'une situation dont tout le monde ne connaissait pas les aboutissants. Tandis que Aluta Continua, c'est le portrait de trois enfants, dont en particulier un enfant de la guerre, et on voit, on reconnaît aussi, c'est peut-être un style Bruno Muel, cette espèce de mélancolie qui nimbe tout le film. Et chez Bruno Muel, même s'il a toujours été du partisan de ceux qui se révoltent, il y a toujours un doute et une douleur même. Et là, ça se sent dans ce portrait d'enfant de la guerre, dans ce beau portrait.
Marcel Trias ne participe pas à la réalisation du film Aluta Continua. Il arrive en Angola en mai 1977 et ne retrouve Bruno Muel et Antoine Bonfanti qu'une seule journée. Trias reste en Angola pour poursuivre sa mission de formation à la télévision angolaise. Il couvre, dans le même temps, l'actualité du pays comme correspondant pour le journal L'Humanité et pour TF1. Il est un des rares journalistes français à être présent le 27 mai 1977. C'est le jour de la tentative du coup d'État.
Luanda, capitale de l'Angola. Les trois quarts des 600 000 habitants de la ville vivent encore dans les mousseks, ces bidonvilles aux baraques de bois et de tôle. Depuis plus d'un an, ces hommes et ces femmes qui ont toujours soutenu le MPLA attendent encore que la révolution leur apporte tout ce que le colonialisme portugais leur avait refusé. Un an, c'est peu pour relever un pays ravagé par 15 ans de guerre et désorganisé par le départ de la quasi-totalité des 500 000 Portugais qui tenaient dans leurs mains toute l'économie du pays. À la tête d'une organisation fractionniste qui étend ses ramifications à tous les niveaux de l'appareil d'État et dans de nombreuses provinces, l'un des anciens chefs des maquis du MPLA, Nito Alves, s'efforce d'exploiter cette impatience. Chassé du comité central du MPLA, il tente le 27 mai 1977 de prendre le pouvoir à Luanda. Pendant la nuit, les soldats de la 9e brigade motorisée se sont révoltés. Disposant d'une douzaine de blindés, ils ont pris le contrôle de la radio et pendant quelques heures, ils appellent la population à se rassembler ici, devant les bâtiments de la radio. Dans le but d'organiser ensuite une marche sur le palais présidentiel. Quelques centaines d'habitants des quartiers populaires, séduits par le radicalisme de la propagande nitiste, répondent seuls à leur mot d'ordre « La province ne bouge pas ».
Et c'est une fin de non-recevoir. Le pays tout entier ne répond pas à l'appel des putschistes. Ce coup d'État, qui manque de justesse de renverser le président Agostinho Neto, se solde par la mort de plusieurs dirigeants du MPLA. Avec l'aide des Cubains, Agostinho Neto réussit tout de même à maintenir l'ordre et à conserver le pouvoir. Mais une véritable purge commence alors au sein du mouvement pour capturer et tuer ce que l'on qualifie alors de fractionniste.
Dans leur discours, ce qui ressort de leur discours, plutôt qu'un certain gauchisme, ça serait plutôt une sorte de stalinisme, si vous voulez, dans la façon de s'exprimer. Ce sont des gens lénitistes s'affirmer plus pro-soviétiques que tout le monde, accuser le MPLA d'être anti-soviétique, par exemple, penser que la classe ouvrière n'avait pas assez rapidement pris le pouvoir complètement, tout ça part de problèmes réels. Les Portugais n'avaient formé pratiquement aucun noir, sauf une toute petite minorité qu'ils appelaient les assimilados, dont ils avaient besoin pour leur service. Et donc les seuls gens formés étaient des blancs et des métis, pratiquement. La plupart des blancs sont partis, vous le savez, sur 500 000, il en est resté peut-être 25 000. Donc le peu de blancs qui sont restés et les métis c'est à eux qu'on a confié, après la Révolution, les postes, souvent les postes dirigeants, les postes de responsabilité. Alors les Nitis ont joué un petit peu, si vous voulez, sur la désillusion, enfin sur la déception de tous ces gens des quartiers populaires, qui, il faut bien le dire, vivent très mal à cause des problèmes économiques qui sont vraiment terribles. Le bilan pour l'instant de tout ça, c'est environ une quarantaine ou une cinquantaine de morts, de cadavres, des dirigeants, donc des gens du peuple, qu'on a retrouvés tous plus ou moins mutilés et brûlés. C'est-à-dire les méthodes du FNLA et de l'UNITA, ce qui a soulevé quand même une très très grande réprobation.
Bien longe, ouvi aquel nome inesquecível dos filhos d'Angola. Valódia, Valódia.
Les représailles sont telles que l'Angola bascule à nouveau dans une spirale de violence qui fera des milliers de morts, parmi lesquels de nombreux dirigeants politiques, des intellectuels, des artistes proches du MPLA soupçonnés d'être impliqués dans cette révolte. Le pays est durablement secoué et s'enfonce à nouveau dans une guerre civile qui durera jusqu'à 2002. 500 000 morts sur près de 30 ans. L'aventure angolaise se termine en 1977 pour Marcel Tria. Il poursuivra sa carrière avec intégrité, avec humanisme, que ce soit comme reporter pour la télévision publique française ou de façon beaucoup plus militante comme journaliste de la radio pirate Lorraine Cœur d'Acier, mise en place en 1979 par le syndicat CGT pour soutenir la lutte des sidérurgistes de Longwy. Ses engagements politiques, sa liberté de parole lui vaudront quelques déboires professionnels, mais n'entacheront pas sa volonté de continuer à filmer la classe ouvrière et de donner la parole aux étrangers et aux laissés pour compte. Marcel Tria nous a quittés en septembre 2020 et c'est avec ces mots, confiés à son ami, l'historien Tanguy Perron, que cette émission se termine.
Depuis très très longtemps, je me méfie du Grand Soir et de... parce que, évidemment, dans ma jeunesse, il y avait une espèce de romantisme révolutionnaire, les souvenirs de la résistance étaient proches. Dans la réalité, lorsque j'ai vu, par exemple, ce que ça donne, une prise de pouvoir, les armes à la main, comme par exemple en Angola, au moment où les gens du MPLA qui sortent du maquis prennent le pouvoir, et puis ce que ça donne un an plus tard, c'est pas terrible, quoi, parce que les gens qui ont combattu pendant des années, les armes à la main, qui ont tout réglé à coups de flingue, le jour où prennent le pouvoir, ils font pas dans le détail, quoi. Hein, la démocratie, ça fait perdre du temps. On a l'habitude de régler les problèmes d'une autre façon et on continue, quoi.
Ainsi s'achèvent les années Angola de Marcel Tria. Un nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Maxime Grandbert, produit par Valérie Nivelon et réalisé par Michael Goncalves, au son des archives de l'INA et de Cinéarchives. Vous retrouverez sur la page de La Marche du Monde les liens des films, les références bibliographiques, mais aussi musicales. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux, podcaster, partager. Cette émission, c'est la vôtre.
A luta continua até a vitória final. A reação não passará. A opressão não passará.
Religion du monde.